Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle. Bonjour à tous, merci d'écouter Radio Okapi. Dans ce numéro du magazine Identité culturelle, nous poursuivons notre voyage dans l'espace Grand Kassai pour parler de la culture Luba. Après avoir parlé précédemment de l'organisation coutumière chez les Luba, l'importance de la généalogie au sein de cette communauté, ainsi que les traditions liées au mariage, aujourd'hui nous allons parler des délices de la gastronomie traditionnelle Luba, de la richesse de leur nom, de l'éducation des enfants et de la place de la femme au sein de cette communauté. Notre guide dans ces voyages, c'est Madame Ndelela Kasonga, une activiste de la promotion des valeurs africaines. Je suis Rosalie Zawadi, bienvenue à tous. Madame Ndelela Kasonga, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous recevoir encore une fois dans cette émission Identité culturelle. Dans ce deuxième numéro consacré à votre culture, la culture Luba, nous allons poursuivre là où on avait arrêté. On parlait du repas traditionnel. Vous avez dit qu'ils ne mangeaient pas les congelés, donc ils élevaient pour pouvoir manger les animaux qu'ils ont eux-mêmes égorgés.
Dans la culture Luba, vous avez aussi cette partie-là. Ceux qui vivent à Kinshasa, on va dire, on est tous à Kinshasa ici, on achète les sosois bibembe dans les supermarchés et tout consort, on les mange sans problème. Mais quand je vais par exemple au Kasaï, je trouve la plupart des cours dans les familles, il y a toujours des poules, des coqs vivants qui se promènent et tout ça là, parce qu'ils en élèvent toujours. Et à un événement spécial, on va en tuer pour manger. Et vous allez voir, vous ne donnez pas, par exemple, à un chef coutumier, ce soit bibembe, vous ne donnez pas au papa, non, d'habitude, il ne mange pas. Vous devez donner un coq entier, enfin un coq ou une poule entier. Un invité de marque, on lui fait un coq entier ou une chèvre qu'on a tuée, parce que ça aussi, on élève les chèvres et les coqs. Vous trouverez toujours les deux, souvent. Et quand on va vous faire la chèvre, souvent, le mets le plus prestigieux, c'est quand on le fait avec la basilique dite traditionnelle ou africaine, c'est le lumba lumba. Donc, en tuluba, c'est le chilwa beni. Donc, ça pourrait dire, c'est pour les invités, quoi. Oui, yambarabapaya, ou bien bobapaya bayaka, un truc dans le genre. Alors, ça se prépare, le poulet au lumba lumba, ou la chèvre lumba lumba qu'on va vous servir. Alors, il y a la particularité aussi, la poule ou le poulet se prépare en entier, de la tête aux pieds. Donc, on enlève juste le bec et tout ça là, et les ongles, les écailles et tout qu'il y a sur les pattes. On prépare tout ça, c'est mange.
Même aux invités, on met les pattes.
On met les pattes aussi. Et il ne faut surtout pas qu'il manque un gésier, il ne faut surtout pas que le cœur manque. Ce sont des choses, surtout le gésier. Vous allez voir souvent les papas, quand il va se servir, la première chose qu'il cherche dans l'assiette, c'est le gésier. On disait à l'époque si c'était interdit aux femmes de manger le gésier. En fait, j'ai posé la question plus tard, on a dit c'est parce qu'ils aimaient ça et ils trouvaient une raison pour dire. C'est comme ça qu'on disait à la femme, si tu manges un gésier dans la cuisine, déjà la femme qui mange dans la cuisine, on la considère comme une voleuse. Parce qu'elle mange dans la cuisine, elle se sert, elle mange la nourriture qui est encore sur le feu. Ça veut dire que ce n'est pas une femme qui aime recevoir. Ça,
donc la femme doit manger après avoir servi.
Pas nécessairement, mais pas manger sur le feu. Surtout quand on ne trouve pas le gésier, ça veut dire que c'est une femme qui mange, qui prépare et mange sur le feu. Et c'est considéré comme une femme égoïste. Autre chose aussi, c'est qu'on a dans le même cadre des invités et dans la culture que moi j'appelle la culture culinaire, comment recevoir les invités. C'est une chose qu'on ne se rend pas compte qu'on fait beaucoup, que beaucoup de gens font, c'est que quand tu arrives chez quelqu'un, on te propose quelque chose, surtout sur nous, chez les Baluba, quand tu arrives, tu ne peux pas partir comme tu es venu. Parce que, en fait, dans la loi de la nature, quand tu m'offres quelque chose, je dois t'offrir quelque chose en retour. Et ça, on ne réalise pas. Donc, quand tu viens, surtout dans le mariage, quand tu viens dans ta belle famille, on ne peut pas te proposer à manger. Tu dis non, je viens déjà de manger. Non, tu ne peux pas dire ça. Même si tu viens de manger il y a 5 minutes, lave-toi les mains, mange 2-3 gouttes. Et puis après, explique que tu viens de manger et tu bois de l'eau.
Oui.
S'ils vont à table, tu vas à table avec eux. Tu ne peux pas t'asseoir là en disant « Non, moi, j'ai déjà mangé. » Et souvent, on fait ce genre de choses-là. On ne se rend pas compte. C'est considéré comme une insulte pour la personne qui a fait à manger. Mmh. C'est très mal vu. Et ça, c'est dans n'importe quelle maison déjà à la base, mais dans la belle famille, c'est encore pire. Mmh. Ça veut dire que la prochaine fois que tu viendras, ta belle famille, ta belle-mère, on ne te recevra pas. Tu vas t'asseoir là. À la limite, s'ils sont gentils, ils te donneront un verre d'eau. Parce qu'à manger, on va te donner, on va dire non, elle n'aime pas manger notre nourriture parce qu'ils pensent qu'on va l'ensorceler. Mm. Donc ça va loin.
Oui.
Alors que c'est là la culture qui est là. Et surtout si les gens mangent ensemble, on est habitué à manger ensemble. Le manger ensemble, aujourd'hui, on nous a appris à chacun doit manger dans son assiette parce que c'est hygiénique et tout. Nos grands-parents ont bien mangé comme ça pendant des années, ils ne sont pas morts. Mm. Et donc, en fait, si les gens mangent ensemble, tu ne vas pas aller dire « Oui, non, moi, je n'aime pas partager des choses. » En fait, quand tu arrives quelque part, tu fais comme les autres font. Mm. Tu danses leur danse.
Oui.
Et c'est comme ça. Même si tu n'aimes pas, fais un effort. Et surtout, ne l'exprime pas. Mm-hmm. En disant « Mais moi, je trouve ça sale. » Tu ne peux pas dire ça. À part le coq vivant, vous avez le perdrix. Le perdrix, ils élèvent beaucoup de perdrix. Hein. Mm. J'en ai trouvé beaucoup de perdrix, des cailles. Donc, toutes ces choses-là, ça se mange beaucoup. Mais c'est toujours des vivants qu'on tue et qu'on prépare sur le champ et on partage.
OK. Là, vous donniez l'exemple de la belle-fille qui vient visiter la famille de son mari. Et la fille vient de se marier maintenant. Quand sa belle-famille arrive chez elle, comment elle fait aussi pour recevoir?
Tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est vice-versa aussi. Il faut dire, quand les garçons vont dans la famille de sa femme, il devra aussi manger quelque chose. Mmh. Mais par contre, quand tu te maries, tu dois recevoir ta belle-famille. Ils vont s'annoncer qu'ils viendront tel jour. Ben, ils vont venir, hein, tout un groupe. Mmh. Tu fais à manger. Tu dois préparer un coq. Normalement, c'est un coq. Tu ne prépares pas une poule, tu vas préparer un coq. Mais en entier. Mmh. Ça veut dire de la tête aux pieds. Tu ne goûtes pas à la sauce, tu ne goûtes pas le sel, tu dois savoir préparer ça au juste, tu dois savoir mieux vaut qu'il manque de sel qu'il y en ait beaucoup. Mais tu peux mettre un peu de sel, mais tu peux faire la sauce, tu prépares tout, tu ne peux pas goûter. Tu mets dans l'assiette, tu couvres, tu vas servir à table. Et puis tu vas faire ce que toi tu vas manger. Tu vas manger par exemple le même foufou que eux, mais enfin, normalement, ce coq-là que tu ne pourras pas toucher. Parce que tu as reçu, c'est pour ta belle famille. Ils vont se partager et tout ça là. Tu vas manger avec eux à table. Normalement, tu ne manges pas avec eux à table. Ils vont manger, eux, quand ils ont fini de manger, ils vont partager ça avec ton mari et ils vont manger. Mais il y a des familles où on accepte que la fille mange, mais ne mange pas cette nourriture-là. Mmh. Elle va manger sa propre nourriture à elle, mais elle reste à table avec eux pour manger. Quoi. Donc, mais c'est très important de savoir que cette nourriture-là, c'est pour la belle famille. De la même façon que quand, normalement, un enfant est né, quand ton premier enfant est un garçon, on tue un coq aussi. Et on donne à l'époque, c'était du coq blanc. Mais aujourd'hui, tournez dans la ville ici, vous trouvez un coq blanc quelque part. Je crois que tous les sorciers les ont pris. Mais on fait aussi ce... Ce n'est pas un sacrifice comme tel. C'est un rite plutôt. Je veux dire qu'ils ont fait aujourd'hui... les églises, on vous dit que c'est un sacrifice. Si tu prépares ça, tu as sacrifié ton enfant à quelque chose. Non, ça dépend de ce qui se passe pendant ce rite-là. Ce qu'on dit, ce qu'on fait. Mais quand un enfant, c'est considéré comme un mets de valeur, un mets parce que quand on prépare le coq, on le prépare avec le. Maintenant, si le grand-père ou un chef coutumier qui vient commencer, on tue, on prend le sang, on met sur l'enfant ou on fait des choses comme ça, on a fait des rites. Mm-hmm. Mais préparer un coq pour sa belle famille, on prépare. De la même façon, vous avez parlé du mariage. Quand il y a de problèmes dans le mariage, par exemple, la femme a trompé son mari, on va vous dire de préparer le coq blanc en question là. Si vous le préparez, si vous savez que vous l'avez fait, vous le préparez, vous donnez. Ben, vous savez qu'il va y arriver quelque chose. Là, par contre, c'est un truc de coutume. Mmh. Et donc, si tu sais déjà que tu as fait une bêtise, mieux vaut ne pas le faire. Mmh. Parce que de toute façon, chez nous, il y a aussi le fait que si tu as trompé ton mari, un enfant va tomber malade. Et c'est comme ça, d'ailleurs, on a attrapé. L'enfant va tomber malade de nulle part, va commencer à faire des fièvres, on va commencer à chercher, on va vous dire, tu as fait quelque chose. Si tu ne le dis pas, l'enfant peut mourir. Mmh. Maintenant, si tu trompes ton mari dans votre lit conjugal, le mari revient dormir dans ce lit-là. Surtout si vous êtes séparés, vous vous remettez ensemble, le mari vient dormir sur ce lit-là, il va mourir. Donc, il y a plein de rites comme ça, il y a plein de choses comme ça qui se font. C'est comme ça qu'on vous dit, de ne pas faire, déjà, de tromper qui que ce soit. Je ne l'encourage pas, mais que ça ne soit pas dans la maison. Si vous avez des enfants, vous les mettez en danger. Vous avez amené qu'un autre homme dans la maison de ton mari. Tu as souillé la maison de ton mari. Déjà ça. Les femmes, c'est différent des hommes. Aujourd'hui, hein, le féminisme a fait qu'on se rebelle sur tout ce qu'on parle des femmes. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Le corps de la femme, c'est un temple. C'est nous qui portons les enfants. Ce n'est pas les hommes. Parce que c'est nous qui donnons la vie. Et tu ne peux pas aller partager ton corps avec tous ces gens-là, surtout si tu y es. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, la dot, c'est le lien sacré du mariage. Une fois qu'on a doté et tu as scellé un lien sacré dans ton mariage, tu ne peux pas aller voir un autre homme. Parce que tu auras failli aux règles de toute façon. Et donc, tous les sorts peuvent tomber sur toi. Parce que quand tu acceptes la dot, qu'est-ce qu'on fait souvent dans la dot? On te pose la question, est-ce que je peux prendre cet argent? On pose la question, est-ce que je peux prendre?
Le papa demande.
Oui. Si tu dis, oui papa, tu peux prendre, il prend. Si tu dis non, il ne prend pas. Sur le champ là, il ne va pas prendre. Mais si tu acceptes de te lier à cet homme-là. Sinon, pour les nourritures, la culture culinaire en général, c'est ça. Mais sinon, on a beaucoup trop d'autres choses qu'on aime manger. Hein. Nos insectes, les soies, les makenena. Et puis, on a des champignons qui sont hyper longs, là, qu'ils appellent les boa boachilunde. On a plein de choses qu'on aime manger. Hein. On mange beaucoup de feuilles. On mange les haricots et ses feuilles. On mange les biboabois, c'est quoi, les mujibou. Donc les feuilles de courge, le courge et les feuilles de courge, on mange aussi. On mange beaucoup de légumes quand même. On est, par exemple, dans notre culture culinaire, on ne mange pas le foufou et la viande. Oui. Il doit avoir un légume d'office. On mange le pondou, on mange toutes sortes de légumes. Tu ne peux pas servir juste le foufou et la viande. On va te poser la question, mais il n'y a pas de légumes. Donc, c'est resté dans la tête qu'aujourd'hui, moi, je n'arrive pas. Je préfère manger le foufou et le pondou sans viande que de manger le foufou et la viande. Je ne sais pas manger le foufou et la viande. Oui. Sans légumes, je ne sais pas le faire. C'est comme ça même, les manger dans des trucs dehors, kwanga, avec rien que la chèvre, comme ça. J'ai du mal. Moi, si tu rajoutes un légume, alors tu as fait mon bonheur.
Solo llena llave, y guagaya kusuna bana baba duma kwenu kulele abena kumakanda akutambi wako duwa kwela nupemba kulele abena kumakanda akutambi wako duwa kwela nupemba baba mwenu mutaumo zolwa chitala.
C'était les titres Kulela de Bayuda du Congo, un choix de notre invité pour le plaisir de tous les auditeurs des radios Okapi. Vous écoutez les magazines Identité culturelle. Aujourd'hui, nous parlons de la culture du peuple Luba de l'espace Grand Kassai avec notre invité, Madame Ndelela Kasonga.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
Nous restons en famille, la nouvelle famille là qui s'est créée après les mariages, l'enfant est né. Comment est-ce qu'on appelle les enfants chez les Luba?
Souvent, déjà chez nous, je ne sais pas dans les autres cultures comment ça se passe, le premier-né, peu importe le nom, c'est le papa qui donne. Souvent, il donne le nom de son père. Si c'est une fille, il donne le nom de sa mère. Comme moi, je porte le nom de ma grand-mère. Et puis après, à partir du troisième enfant, le mari peut dire, soit il donne le nom, soit il te dit choisis le nom que tu veux donner. Tu vas donner par exemple le nom de ta mère, le nom de ton père, selon le sexe de l'enfant. Et à un moment donné, donc normalement c'est le mari qui donne le nom. Et c'est lui qui permet à un certain nombre d'enfants, il va dire, s'il est réglo, au troisième il va te dire donne le nom de ta mère et tout ça là. Il y en a qui ne sont pas réglo, qui vont dire non. Ils vont décider jusqu'au Xème enfant. Ils vont dire, OK, là, maintenant, tu peux donner. C'est eux qui choisissent.
Oui. Et par exemple, votre nom, c'est Ndelela Kasonga.
Ndelela Kasonga. Ndelela, qui est le nom de ma grand-mère. Donc, Ndelela veut dire donner la vie. Alors, Kasonga, ça veut dire le guiseur. C'est lui qui aiguise, donc l'aiguiseur. Ndelela, donc finalement, on me dit de mettre au monde un aiguiseur, quoi. Donc, si on doit traduire Ndelela autrement, on parlera de la prospérité, de la grandeur, des choses comme ça.
Les noms de votre père?
Mon père s'appelle Kasonga Ndunga Moulé, s'appelait. Alors, Kasonga, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aiguiseur. Ndunga, c'est un arbre géant qui fait plus de 10 mètres. Cet arbre-là s'appelle Ndunga. Alors, il a le nom de Ndunga. Et à l'authenticité, il a rajouté le nom de Moulé. Donc, il s'appelle Kasonga Ndunga Moulé. Moulé qui veut dire grand. Donc, finalement, Kasonga, ça veut dire c'est l'aiguiseur. Ndunga, le géant. Et Moulé, le grand. Donc, c'est le grand géant. Donc, c'est l'aiguiseur, le grand aiguiseur géant. C'est ça veut dire.
Donc, je comprends qu'on donne les noms des grands-parents pour faciliter aux enfants de retenir la généalogie. C'est plus facile comme ça quand on continue à avoir les noms des grands-parents, par exemple?
Pas nécessairement. Ce n'est pas parce qu'on doit retenir la généalogie, mais on a fait en sorte que de donner les noms, c'est le côté homonyme. C'est par honneur plutôt qu'on le fait, parce qu'on peut décider de donner les noms d'un enfant. Par exemple, ma sœur cadette porte le nom de la petite sœur de ma mère, parce que voilà, elle a voulu donner ce nom-là, et le nom de sa petite sœur. C'est par honneur pour sa petite sœur. C'est le lien que tu as avec la personne que tu veux donner le nom. Maintenant, ce qu'on fait, par contre, c'est que même si j'ai une petite sœur, l'avant-dernière chez nous, porte le nom de la femme du meilleur ami de mon père. Et porte le nom de la femme du meilleur ami de mon père. Malgré ça, mon père nous a appris d'où on est, d'où on vient. Il te dit, vous ne devez jamais oublier d'où vous êtes. Vous êtes des Bakwachia, Benamulenga, votre grand-père Mbangula, il y a le Katenda, il y a le nom qui se suit. Comme on dit chez nous, quand on fait les Kassala, on va commencer à citer la généalogie. Moi, par exemple, j'ai dit, je suis Ndelela wa Kasonga, Kasonga wa Ndunga, Ndunga wa Muswai, Muswai wa Ba, Chindai, et je peux continuer, wa Mbangula, Nekatenda, Nibluwalupela, Nibombwakoya, je peux continuer. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont vécu dans ma famille. dans la généalogie, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris très jeune, mes parents m'ont appris. Et aujourd'hui, il suffit que je croise n'importe quel louba qui je lui dis qui je suis. Il va dire, ah, vous êtes l'excès. En tout cas, il est du Kassai oriental et je parle de Bakwachi. Il va dire, ok, chez vous là-bas, c'est à Chilundu, chez vous là-bas, c'est à Miabi. Vous, vous êtes de Miabi. Par exemple, c'est comme ça qu'on se reconnaît.
Comment les loubas éduquent leurs enfants, filles et garçons?
L'éducation des enfants est tellement très importante que c'est à cause de ça qui pousse à le choix de la femme. Le choix de la femme, c'est l'homme cherche une femme qui va éduquer ses enfants, qui va bien éduquer. C'est d'ailleurs à cause de ça que les baloubas restent sectaires, parce que l'homme va épouser une femme qui reste louba pour la continuité de sa culture à ses enfants. Et c'est à cause de ça qu'on a gardé ce côté sectaire où les loubas aiment se marier entre eux, pas par tribalisme, plutôt par conservation de la culture. Et on sait tous que la femme éduque un enfant selon l'éducation qu'elle a reçue et selon chez elle. Donc si, alors on veut d'abord, ils veulent que leurs enfants parlent leur langue. Et en plus de ça, ils veulent que les enfants soient éduqués selon les coutumes et les mœurs des baloubas. C'est comme ça qu'ils restent sectaires, comme ça ils se marient entre eux. Alors, l'éducation du garçon et de la fille reste toujours différente jusqu'aujourd'hui, parce que le louba a tendance à encenser le garçon, parce que le garçon garde le nom de la famille. La fille va perdre le nom de son père. Quand elle sera mariée, elle perd le nom de son père. Alors que le garçon va garder le nom dans la famille. Le nom va continuer à tourner avec le garçon. C'est comme ça que les garçons sont traités comme des enfants rois. C'est comme ça que les garçons sont envoyés à l'école. C'est comme ça que les garçons sont privilégiés. Et les filles sont élevées pour les tâches ménagères, pour être des bonnes épouses. Vous verrez partout, on élève ça. Je peux quand même dire que dans toutes les cultures du monde, on élève les filles à être des bonnes épouses. Mais vous trouverez chez les loubas, c'est plus accentué. Parce que une bonne épouse, c'est celle qui s'occupe bien de sa famille, c'est de son mari, c'est celle qui est soumise à son mari. La soumission pour eux, c'est le respect, c'est se plier à tout ce que l'homme veut et tout consort. Donc maintenant, ça dépend de cet enfant, la roi qu'on a élevé aussi, comment on l'a élevé. Si on l'a élevé à respecter sa femme ou on l'a élevé à chosifier sa femme, ça c'est encore autre chose. C'est ce qui fait qu'il pose problème que vous avez cette caricature qu'on vous dira que non, les baloubas, les hommes baloubas, ils chosifient trop la femme, ils les traitent. C'est pas tous, il y a qui sont bien. Mais ceux souvent qu'on a élevés comme des enfants rois, là, qu'on leur dit que la femme est leur serviteur. Déjà, quand tu élèves un enfant, un garçon à qui tu dis que la femme est son serviteur, comment veux-tu qu'il respecte la femme? Il y a dans la culture louba, dans certains groupements, comme j'ai dit tout à l'heure, pas tous les loubas ont les mêmes coutumes. Il y a dans les coutumes où l'homme ne peut même pas toucher à un gobelet. Même sa propre mère, quand il vient le servir, il doit se plier, il doit faire ceci, il doit faire cela. Donc, c'est les enfants rois, quoi. Et quand, surtout, c'est des enfants de chef, la lignée du chef, alors la femme ne vaut rien. Alors, ça veut dire que la femme doit se plier, à moins que, dans cette lignée, il n'y ait que deux femmes, alors ça sera la femme qui sera chef coutumier. Mais et ça aussi, c'est encore autre chose. Comme c'était considéré que la royauté, c'était chez les hommes, je ne sais pour quelle raison, souvent, quand tu enfantais d'une fille, mais la première fille, on te laissait la deuxième, la troisième, l'homme allait chercher une autre femme qui va lui faire un garçon. Des fois, on te chassait même. On te chassait parce que toi, tu ne m'amènes que deux filles. Et ça, c'est encore autre chose qu'il faut expliquer aux hommes. C'est pas nous qui déterminons les sexes des enfants, mais c'est bien vous, les hommes. Donc, quand vous chassez vos femmes, c'est en fait, c'est vous le problème. Alors, il y a toutes ces choses-là, mais quand la femme a le premier enfant, un garçon, on va tuer le fameux coq là, le coq pour célébrer la venue d'un enfant, c'est considéré comme un roi, c'est considéré, donc on célèbre quand c'est un garçon. Quand le premier-né est un garçon, alors tu as épousé la femme qu'il fallait, il t'a donné ton premier-né, c'est un garçon, ta famille s'est assurée que ton nom va continuer, c'est assuré, donc vous vous rendez compte. Alors quand c'est une fille, on est capable de te tabasser même, parce qu'on peut même te cracher dessus, on peut même t'insulter. Parce que à l'époque c'était. Aujourd'hui ça a quand même changé. On a réussi à faire comprendre. Ça reste quand même les gens qui cherchent des garçons, mais on a réussi à faire comprendre que c'est cette histoire de scolariser les filles. Moi souvent quand je vais dans les villages justement, Kassai, ça fait partie du travail que je faisais, c'était ce travail de sensibilisation, leur faire comprendre que même les filles peuvent construire, même les filles peuvent devenir des présidents, même les filles peuvent devenir des ministres, même les filles peuvent faire des grandes études, donc il faut les envoyer à l'école. Il faut commencer à les éduquer de la même façon qu'on éduque les garçons. Je vais donner juste l'exemple, mon père nous a élevés égal. On a été élevés de la même façon, aussi bien que les filles que les garçons. Les filles chez moi savent préparer, les garçons chez moi savent préparer. Il leur a dit, ici, il n'y a pas de garçons ou de filles, il y a des enfants. Il n'y a pas de travailleurs de qui que ce soit. Vous êtes tous égaux, vous allez tous travailler de la même façon. Les garçons chez nous n'ont pas ce problème-là. Donc, en fait, c'est un choix, encore une fois. On ne va pas dire que mon père, il a été tellement émancipé ou parce qu'il a vécu en Occident ou quoi que ce soit. Non, mon père est né au village. Il n'est pas né dans un hôpital. Il est vraiment bien né au village, dans un village. Et donc, s'il a voulu faire ça, c'est parce qu'il a voulu justement que ses enfants n'aient pas ce manque de respect envers les femmes en se disant que non, les femmes sont des choses, sont ceci, cela. Il a dit non. Une femme aussi peut devenir quelqu'un. Une femme peut faire aujourd'hui, la preuve, on est là. On a une femme premier ministre, on a eu des femmes présidentes dans d'autres pays, on a eu ceci, on a eu cela.
Et il a été investi il y a quelques jours.
En Namibie, c'est ça, non? Voilà, on a eu Sirleaf Johnson au Liberia. Et on en a eu comme ça. Et il ne faut pas oublier, on parle de Kipa Vita, toutes ces femmes-là, on fait quelque chose. Si vous allez à l'époque des femmes dans les Dahomey et tout ça, c'était des femmes rois, c'était les femmes qui allaient au combat, pas les hommes. Les hommes restaient au village. Dans nos royaumes, on a eu des femmes. On en parle aujourd'hui, mais on a eu des femmes. Donc, on doit penser à aller au-delà de la chose, aller au-delà de qu'une femme est là pour servir l'homme. Déjà, moi, je peux expliquer, je peux juste dire, quand vous choisissez votre femme, choisissez votre partenaire. Choisissez la personne avec qui vous allez partager votre vie. Si vous la respectez, elle vous respectera. Vous n'aurez même pas besoin de demander ce respect. Parce que vous pouvez me demander de vous respecter, je le fais parce que vous m'avez demandé, mais en réalité, je ne vous considère pas.
Nous allons terminer en parlant des valeurs qui sont peut-être transmises à travers les proverbes en Tiluba.
Alors, le proverbe qui dit « Mpofu mudimi na budimi ». Je vais le traduire littéralement en français. Un aveugle qui s'est labouré un champ. Ça veut dire justement un bienfait à un ingrat. Vous faites du bien à un ingrat, eh ben, ne vous attendez jamais à un remerciement, parce qu'il ne le fera jamais. Parce que ça veut dire qu'un aveugle, on parle d'un aveugle qui laboure le champ, il ne pourra jamais voir ce champ-là. Et c'est tous les bienfaits que vous faites à un ingrat ne vous sera jamais rendu et ne sera jamais reconnaissant envers vous par rapport à ça. Un autre proverbe qui dit « Kutwa ne munya kubadila mvula ». Dans ce sens ici, qu'est-ce qu'il dit? C'est de prendre toute chose au sérieux quand vous le faites en fait. Tout ce que vous faites, faites-le au sérieux au risque de le regretter. La traduction littéralement qui dit, si tu te promènes sous un soleil tapant, tu sais que la pluie arrive et tu risques de te mouiller. Donc tu dois faire des choses en conséquence, quoi. Sinon tu vas le regretter. Donc si tu sais, il y a certains soleils, quand tu regardes, tu dis, ce soleil ici présage la pluie. Donc mieux vaut que j'aie un parapluie au cas où. C'est exactement dans ce sens ici, ça veut dire que donc, ce que tu fais, tu dois toujours prévoir les conséquences. Ça veut dire que fais attention à tout ce que tu fais. Donc tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête en fait, en réel, donc, dans ce sens-là. Quoi.
C'est la fin de ce numéro du magazine Identité culturelle sur Radio Okapi, consacré aujourd'hui au Luba du Kassai. Merci à notre invitée, Madame Ndelela Kasonga, qui nous a parlé des repas traditionnels chez les Luba, des noms Luba, de l'éducation des enfants et de la place de la femme. Il y a encore beaucoup d'aspects à découvrir dans cette culture. Nous y reviendrons dans les prochains jours. Cette émission a été réalisée sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Rosalie Zawadi et je vous remercie de votre fidélité. Vous pouvez la réécouter sur notre site radiookapi.net. À très bientôt sur ces ondes de la Radio de la Paix et surtout, portez-vous bien.